quelquefois des gens qui se demandent pourquoi les policiers assistent les ambulanciers dans certains types d'opérations. On en a eu un exemple en fin de semaine alors que les policiers ont assisté les ambulanciers dans le cadre d'un arrêt cardiaque et l'intervention rapide des patrouilleurs et conjointement avec celle des ambulanciers a permis de ranimer l'homme, de l'amener à l'hôpital et de lui sauver la vie. Alors, une belle mention pour ce beau geste ce matin. Les pompiers ont été appelés à intervenir dans la dernière nuit, un peu avant 4 heures du matin, pour un bâtiment inhabité sur la rue Lévis à Alma. Le début d'incendie a été circonscrit assez rapidement. Cependant, les dommages ne se limitant seulement qu'au revêtement extérieur, personne n'a été blessé dans l'opération. Un enquêteur de la Sûreté du Québec a été dépêché sur les lieux sur la rue Lévis aujourd'hui pour tenter de déterminer la cause du sinistre. Il y a une nouvelle qui est tombée en toute fin de journée vendredi. On y revient ce matin parce que c'est quasiment passé sous silence, mais toujours est-il que la résidence Les Aînés de Lens à Lens-Saint-Jean pourra bénéficier de quelques mois d'opération de plus. Alors, la fameuse fermeture qui était appréhendée pour le 30 novembre est décalée dans le temps. On parle du mois d'avril maintenant. La RPA va poursuivre ses activités pendant presque 5 mois de plus, mais comme l'a expliqué au 92.5 la porte-parole du CIUS, Mélissa Bradette, l'avis de fermeture n'est pas exclu encore. L'établissement va continuer d'offrir des soins et des services aux résidents et le partenariat avec Aide chez soi de l'Abbé est maintenu. La décision permet également au CIUS de se donner quelques mois supplémentaires pour tenter de trouver une solution permanente. Madame Bradette qui ajoute que les équipes en place travaillent actuellement à analyser les différentes solutions potentielles pour éviter une fermeture et offrir tout l'accompagnement et le soutien nécessaire. Elle précise également que l'établissement a le devoir d'assurer la sécurité et la protection des résidents et qu'aucun compromis n'existe en ce qui concerne la qualité des soins et des services qui sont offerts aux résidents. Les travaux d'exploration pour trouver une nouvelle source d'eau potable pour alimenter les secteurs de la baie qui ont eu des problèmes avec les PFAS, c'est-à-dire les composés perfluorés, les travaux de recherche de nouvelles sources d'eau potable vont débuter bientôt à La Terrière. Ce sont nos collègues de Radio-Canada qui nous rapportent que des forages et des puits seront creusés à différents endroits dans le secteur situé au sud de l'usine de Rio Tinto. Saguenay a d'ailleurs lancé un appel d'offres en octobre dernier afin de trouver une firme qui va se charger de creuser des puits d'observation et aussi un puits d'essai, d'effectuer un forage et de réaliser des essais de pompage. Le porte-parole de la ville de Saguenay, Dominique Arsenault, mentionne également que pour toute source d'eau potable qui sera trouvée, peu importe l'endroit, ça va pouvoir être raccordé au service des conduites déjà existantes, mais naturellement, il va falloir construire de nouvelles infrastructures une fois que la nouvelle source sera trouvée. Et en terminant, on va terminer là-dessus avec une autre tranche de ce sondage Somme le quotidien, réalisé pour le compte d'une autre station de radio. La guerre que se livrent différentes gangs criminalisées pour le contrôle du marché des stupéfiants à Saguenay ébranle 4 citoyens sur 10, donc 40% des citoyens. C'est ce qui se dégage de cette autre tranche du sondage Somme le quotidien et qui nous apprend également que 58% des gens se disent pas du tout ou un peu ébranlés par les événements violents et 40% mentionnent que cette guerre influence moyennement ou beaucoup leur sentiment de sécurité à Saguenay. C'est tout pour le moment, mes chers amis. Alors, pour ces nouvelles et bien d'autres, rendez-vous sur le ckaj.org, section Journal Radio, 92.5. Bon début de journée.
Le 92.5 vous présente 7 minutes informatives avec votre député de Jonquière à l'Assemblée nationale, M. Yannick Gagnon, un gars de Jonquière pour les gens de Jonquière.
Allô tout le monde! Pour débuter ma minute cette semaine, je suis fier d'annoncer que je supporte une nouvelle étude sur le développement du sport en région qui permettra à l'UQAC d'attirer et de retenir davantage de jeunes dans la région. Quelles sera ou quelles seront les disciplines sportives qui s'ajouteront à notre université régionale? C'est ce que cette étude qui sondera le milieu apportera comme réponse. J'ai bien hâte de connaître ce qui ressortira de cet ouvrage mené par la future docteure Elisabeth Martin, à qui j'ai assuré mon entière collaboration. Maintenant, je veux vous parler du regroupement des Acadiens qui célèbre son 30e anniversaire cette année. Pour l'occasion, un comité s'est mis en place pour lancer une campagne de financement pour doter le bâtiment des Acadiens d'une chaise escalier adapté pour tous. Connaissant l'importance de la salle des Acadiens de notre communauté, j'ai donc accepté de faire partie du comité. Donc, dans les prochaines semaines, le comité et moi solliciterons les entreprises de Jonquière pour nous aider à atteindre notre objectif d'amasser 35 000 $. En terminant, notre bureau organise un autobus aller-retour pour aller visiter l'Assemblée nationale le 19 novembre prochain. Vous êtes intéressés? Contactez-nous! 418-547-0666. Au grand plaisir de vous accueillir à Québec. Bonne semaine à tous!
Pièce d'Auto Sainte-Geneviève est fier de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièces d'Auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel. Pièces d'Auto Sainte-Geneviève vous souhaite une bonne émission.
Pour partir la journée du bon pied, le 92.5 vous accompagne dans la bonne humeur et vous livre toute l'actualité. Avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Voici votre émission matinale.
4 novembre 2024, demain, journée quand même très spéciale pour nos voisins du Sud alors qu'il y aura l'élection présidentielle. Tu mentionnais, bon, jour du vote normal, mais combien de congrès? C'était
75 millions déjà.
75 millions qui ont déjà fait valoir leur décision, par anticipation, ce qui est quand même très intéressant. J'ai hâte de voir le résultat du nombre du suffrage, de participation là, oui. Au niveau du vote de demain, si on aura une hausse ou une baisse par rapport à l'élection d'il y a 4 ans. Et quel sera le dénouement de tout ça? Hein? Pour en parler, bien notre expert en politique américaine, Guillaume Lavoie, est avec nous. Guillaume, bienvenue, bon lundi.
Bonjour.
Ce sera une journée intéressante demain, mais comme tu m'as mentionné avant d'entrer en onde, ce sera une journée très longue également parce qu'il y a tellement d'États, là, il y a 7-8 États clés en ce moment où les sondages sont pratiquement 50-50.
Oui, et là, là-dessus, si vous avez des heures de sommeil en banque, gardez-les, vous en avoir besoin, parce que je serais bien surpris qu'à 8h ou à 9h, on vous dise, ben voilà, on le sait qui est le président. Et peut-être parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Hein. Il y a 4 ans, on a été vraiment sûr de qui serait le président à la fin du mois de décembre, voire au début du mois de janvier. On l'oublie, ça. Alors, ça va être très, très long. Et là, voici là, l'ensemble des possibilités. Okay. C'est vrai que ça se joue dans 7 États à peu près. Autour du lac Michigan, on a le Wisconsin, la Pennsylvanie, le plus important parce qu'il vaut plus cher, parce que c'est un État qui vaut plus cher au collège électoral, et le Michigan. On descend au sud, on a la Caroline du Nord et la Géorgie. Et ensuite, on s'en va à l'ouest, et là, 2 fuseaux horaires plus tard, ça veut dire que il va falloir attendre. Eux, il ne sera pas aussi tard que nous là, quand on va avoir notre soirée électorale, où on a l'Arizona et le Nevada. Alors, ça peut être bien sûr que c'est possible, même si c'est très, très, très serré, ça se pourrait que Mme Harris gagne les 7. Mais même si c'est très, très, très serré, ça se peut aussi que M. Trump gagne les 7. Alors, un peu comme vous écoutez un match de hockey, puis c'est 1-1, ben les deux peuvent gagner. Ça va être une victoire pour un ou une victoire pour l'autre. Ça ne prend pas grand-chose pour que ça bascule. Mais ce qui va faire que ça va être très long, c'est 2 choses. D'abord, il y a les fuseaux horaires. 3 choses. Les fuseaux horaires pour l'Ouest, surtout si on n'a pas de réponse claire. Si, par exemple, Mme Harris et M. Trump se partagent quelques états clés, ben il faudra quand même attendre. Là, c'est comme si on avait une élection fédérale, puis à la fin, c'est à égalité, puis il faut dépouiller les votes en Colombie-Britannique pour savoir.
Okay.
On va se coucher un peu plus tard.
Ouais, ouais.
Après ça, il y a un paquet d'États où dans la loi, c'est écrit que si la marge de victoire est moins de 1% ou moins de 0,5%, recomptage automatique. Ça fait partie de la loi. Là.
Okay.
Et on peut aussi...
En plus des demandes de recomptage, j'imagine.
Oui, et là, les demandes ne peuvent pas être refusées. Il y a des États où les règles sont, si moi je suis prêt à payer pour le recomptage, je peux l'avoir.
Oh,
et ajouter à
payer
ça,
pour ça,
toutes les demandes de faire invalider les votes de tel bureau de vote, parce que je pense que c'était corrompu, ou d'aller devant les tribunaux parce qu'ils ne l'ont pas compté comme je pense que ça devrait. Chez nous, il y a une loi électorale. Si, par exemple, c'est une élection fédérale. Quand vous allez voter à Chicoutimi, ou à Roberval, ou à Vancouver, c'est le même genre de bulletin de vote. C'est les mêmes lois sur comment on vote. C'est les mêmes lois sur comment on les compte. Puis quand c'est au provincial chez nous, l'élection de Québec fait que d'un comté à l'autre, c'est pareil. Aux États-Unis, au minimum, il y a 50 lois électorales différentes, plus des procédures différentes d'un comté à l'autre. Alors, c'est la recette du bordel. Et quand c'est serré, bien là, on teste le système dans ces derniers retranchements-là.
OK, OK. Ça veut dire que moi, je pensais faire un bon coup. T'as invité à 24 heures après. Mais on a des grosses chances qu'on va en parler pendant une couple de semaines.
On va être dans l'incertitude, ça, c'est sûr.
Ça va venir sur l'actualité.
Ben évidemment, et on va être dans l'incertitude. Tout va dépendre de la marge de victoire de l'un ou de l'autre.
C'est sûr.
Évidemment, plus c'est serré, plus ça ouvre la porte à dire « Ah, ben écoutez, on va frauder. » Même penser à Trump, il y a 4 ans, vous vous souvenez de cet appel, il appelle en Géorgie aux républicains qui est en charge d'organiser les élections.
« Trouve-moi 30 000 votes. »
Il dit « Oui, c'est ça, trouve-moi 11 500 votes. » C'est pas difficile, là, ce que je vous demande. Là. Alors, c'est sûr que si la marge est grande, ça vient rendre ça politiquement plus difficile.
Oui.
Mais même quand Biden a gagné, il a gagné la Pennsylvanie par, là, de mémoire, je pense que c'est 80 000 votes.
C'est très bien, là.
Alors, ça va être vraiment, vraiment au fil du rasoir. Et le plus inquiétant, c'est pas le 5 novembre demain. C'est entre le 5 novembre et le 20 janvier.
On voit déjà certains commerces et même au niveau de la Maison-Blanche, là, on commence à tout barricader, là. Ça va brasser, là.
Beaucoup. Ce qui penche un peu pour le... Ce qui m'aide à garder espoir que ce sera moins pire qu'il y a 4 ans, c'est que là, c'est pas Trump qui est aux commandes, là. C'est Joe Biden. Et je suis convaincu, moi, que si les votes indiquent qu'on a une victoire de Trump, Joe Biden ne va pas essayer de faire déraper
le
pouvoir. Là.
C'est sûr.
Alors là, on a un être qui a travaillé à utiliser le pouvoir qui était le sien pour transformer le résultat d'une élection. Ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors, on va voir comment ça va se passer. Et si vous voulez avoir une idée de, OK, on surveille quoi, là? Demain, là, qu'est-ce que je dois regarder? C'est quoi les canaries dans la mine? Évidemment, il y a nos 7 États dont on a parlé. Mais regardez au moins 2 choses. Juste une chose, tiens. Le taux de participation chez les femmes. Ça, c'est l'espoir le plus grand de Mme Harris. Pas parce que c'est une femme. Parce que dans cette campagne-là, surtout à cause de l'avortement, surtout à cause du comportement un peu grossier de Donald Trump, l'avantage de Mme Harris dans l'électorat féminin est gigantesque. On parle d'un avantage de, en moyenne, là, 21 à 23 % de plus que Trump. C'est énorme.
Ouais,
on s'est jamais vu autant que ça. Et la règle du pouce aux États-Unis, c'est que les femmes votent un peu plus démocrates que les hommes. Cette fois-ci, c'est beaucoup, beaucoup plus. Mais surtout, surtout, les femmes votent plus que les hommes. Le taux de participation dans l'électorat féminin est plus élevé. Alors, un taux de participation très élevé chez les femmes, ça indique des très, très bonnes nouvelles pour Mme Harris.
C'est peut-être pour ça que le gars de Fox a dit que si les femmes votaient contre leur mari républicain, c'était comme les tromper, peut-être faire peur aux femmes.
Ça, d'abord, c'est complètement odieux. Et là, je vais vous partager une anecdote bien personnelle.
Oui.
Et moi, je ne l'ai pas vécu, là, mais j'en suis très, très fier. C'est ma grand-mère maternelle qui, elle, votait pour, et elle le disait comme ça, le beau Jean Lesage, et mon grand-père maternel qui, lui, votait Union nationale.
Oh.
Et lorsqu'elle allait voter, imaginez, on remonte, là, on est dans les années 50-60, elle disait, j'ai annulé le vote de mon mari, parce qu'elle votait différemment. Non seulement elle votait ce qu'elle croyait, mais elle le disait. Alors, a posteriori, je suis tellement fier de ma grand-mère qui disait, ben, c'est mon droit de vote, alors c'est moi qui décide. Cette idée de voter contre son mari,
ben oui.
Ce qui est dangereux, c'est est-ce que ce sera la porte ouverte à l'intimidation de maris grossiers face à leur femme? Il y a des États où on permet aux maris, aux couples, de s'accompagner l'un l'autre dans l'urne. Ça, c'est inquiétant.
Ah, je ne savais pas ça.
Également, ce qu'on voit, ce qu'on n'a pas, on voit pas ici, c'est qu'il y a des boîtes de vote un peu partout dans les villes où les gens vont porter leur bulletin qui ont été incendiés au cours des derniers jours. Quelles seront les conséquences? Parce que là, ces votes-là sont perdus. Là.
Ouais, alors, 2 choses. C'est comme quand on dit, ça prend de la justice, mais ça prend apparence de justice. Moi, j'ai observé des élections dans peut-être 30 de pays. Là. Et même chez nous, parce que j'ai travaillé, moi, comme scrutateur, dans nombreuses élections, c'est quelque chose de noble, j'invite les gens à le faire, c'est quelque chose de très important. Mais c'est la science des États, une élection. c'est des votes, c'est des procédures. Il y a toujours des erreurs, peu importe le pays, peu importe l'élection, que ce soit à Jonquière ou dans le fin fond du Congo, il y a des erreurs. Après ça, est-ce qu'une erreur est une fraude? Mais là, c'est est-ce qu'il y a une erreur systémique que je retrouve à plusieurs endroits ou pas? Et après ça, est-ce que cette erreur-là, systémique ou pas, a une influence sur le résultat? Des boîtes pour ramasser des votes par anticipation, parce qu'aux États-Unis, ils votent beaucoup par anticipation. Il y a oui. 4 ans, c'est 40 % des gens qui ont voté avant le jour J. Et il n'est pas impossible que ce soit presque autant cette fois-ci, même s'il n'y a pas de pandémie. Là. Les gens trouvent ça plus pratique. Et tu peux déposer ton bulletin de vote dans des boîtes, pensez comme à des boîtes postales chez nous. Là.
Oui.
Et il est arrivé, il y en a 2 qui ont été incendiées, on ne comprend pas encore tout. On est en train d'essayer de trouver c'était qui ces gens-là, soit parce que tout n'a pas brûlé, puis on a le qui a voté. Là, vous savez, c'est le vote de qui.
Oui.
Puis là, on les recontacte pour qu'ils puissent revoter. Mais 2 boîtes sur des dizaines de milliers de boîtes sur le territoire américain, ça ne change potentiellement pas une élection. Le problème, c'est qu'on a un camp qui, lui, a déjà dit que tout le système était frauduleux quand il ne gagne pas.
Ça donne une bonne raison de dire « Ah, oui. ils ont brûlé ».
C'est ça. C'est comme de dire que ça prend pas grand-chose pour nourrir un esprit qui est tombé dans la conspiration. Alors, la moindre petite incartade va être imaginée comme pas une erreur de bonne foi ou quelque chose. Ça arrive ou ça peut arriver, mais clairement, il y a un dessein, même si dans les faits, personne ne sait si ces votes-là sont républicains ou démocrates. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est très grave. Comme il pourrait y avoir, imaginez, là, ça pourrait arriver chez nous, dans un centre de vote. Ben là, il y a un incendie qui se déclare. Ça peut arriver. Puis là, ben, selon l'importance de la destruction des votes, on décide qu'est-ce qu'on va faire. Mais si je pense que tout est corrompu, ben là, mon incendie, il est donc à dessein.
C'est
parce que je voulais empêcher quelque chose. Et c'est là où la perte de confiance dans les institutions vient grignoter tous les aspects de la vie collective.
Tellement intéressant.
Oui.
J'ai hâte de voir ton analyse mercredi soir. Est-ce qu'on s'en parle au retour?
Mercredi.
Pour voir justement qu'est-ce qui en découle de ça. Puis, en finalité, est-ce que ça va être très long avant qu'on ait des résultats ou quoi que ce soit? Oui. Mais tout dépend des marges.
Puis, gardez en tête que. Puis c'est normal, là. Pour toutes sortes de raisons, on a les yeux rivés sur la Maison-Blanche, mais ça, on n'est pas au Canada et on n'est pas au Québec. Là. Pour que quelque chose se passe aux États-Unis, pensez par exemple à la loi des lois, le budget, ben il faut que et la Chambre vote oui, et le Sénat, et la Maison-Blanche. S'ils ne s'entendent pas, il ne se passe rien. Alors, c'est très important qui va être à la Maison-Blanche. Mais c'est tout aussi important
qui
va avoir le contrôle du Sénat puis qui va avoir le contrôle de la Chambre. Alors ça aussi, gardez ça. À la Chambre, les démocrates doivent essayer de faire un gain de 4 sièges. Le chiffre magique, c'est 218. Alors sur 435, là, s'ils en ont 4 de plus qu'il y en avait avant, c'est eux qui contrôlent la Chambre. Au Sénat, ça va être difficile pour les démocrates.
Guillaume, merci beaucoup. Donc, on se redonne rendez-vous mercredi dans le retour du 92.5 au lendemain donc de ces élections.
Au plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
8h18, donc préparez-vous demain. Ceux qui sont au couche-tard là, pourraient veiller très, très, très tard, disons. Mais je pense que ça ne vaut pas la peine. Même mercredi matin, on risque d'être dans...
Couchez-vous, les gars.
On n'aura peut-être pas un président officiel le lendemain matin.
Non.
Centre
d'autonomie, oui.
Oui, un choix qui n'est pas difficile à faire.
Ça, c'est facile.
Nous, on en a un dans la région. C'est d'aller au centre d'autonomie pour le vélo électrique. Le meilleur rapport qualité-prix, les Vélec sont au centre d'autonomie. Seul endroit où vous pouvez vous en procurer, c'est fait au Québec. C'est fabriqué au Québec. Donc, ça vous offre 3 ans d'assurance anti-vol. L'assistance routière est limitée. Il n'y a aucune marque de vélo électrique qui peut vous offrir ça. Donc, vous le faites voler. On va vous en remettre un de même valeur. Et là, on fait un rabais sur les fat bikes. Ça, c'est des vélos avec des pneus un petit peu plus larges qui peuvent rouler 12 mois par année sur tous les terrains. 2 000 $. 2 000 $. Ils sont vraiment pas chers. Venez les voir avec un beau moteur de 500 watts. Vous ne resterez pas pris nulle part avec ça.
Légal.
C'est légal, effectivement. Vous pourrez rouler quand vous voulez. Triporteur, quadriporteur, néambulateur, chaise roulante électrique, fauteuil auto-soulevant, auto-bloquant, lit électrique, monte-charge, ascenseur et plus encore. Venez voir tout ce qu'on peut faire pour vous aider à être mieux dans la vie, à rester chez vous le plus longtemps possible. Au 690 rue des Actionnaires à Chicoutimi, 399 avenue de la Friche d'Olbeau-Mistassini, centreautonomie.com, 542-1255, 542-1255 avec les centres d'autonomie. La vie continue.
Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Découverte musicale autochtone dans un nouveau format rallongé de 1h30 pour l'émission de découverte musicale autochtone qui sera accompagnée d'émissions de contes et légendes réalisées par notre collègue Tania Jourdain. Tous les samedis 18h au 92.5, ma radio d'ici, la seule radio allochtone à offrir une vitrine à la musique autochtone.
À quoi tout a, à quoi tout a, tu crois, Camille?
Rencontrez la culture au sommet du Mont-Jacob avec le théâtre La Rubrique.
Le samedi 16 novembre, découvrez deux créations des deux mondes à la salle Pierrette Godreau. À 13h30, assistez en famille à Bambi hors champ, une pièce pour les 8 ans et plus qui revisite avec audace le conte de Félix Salten. Puis à 19h30, plongez d'enfant, une fable contemporaine qui explore survie, mémoire et résilience à travers des tableaux surréalistes.
Réservez au théâtrelarubrique.com. Une invitation d'Hydro-Québec, partenaire de saison.
Une belle et grande nouvelle dans le domaine des marchés d'alimentation. Oui, un troisième IGA Régnier est maintenant en opération et fraîchement rénové à Chicoutimi au 1324 Boulevard Talbot, qui s'ajoute aux deux IGA Régnier de Métabitchouan et de Chicoutimi Nord Boulevard Sainte-Geneviève. Depuis 50 ans, on vous offre la qualité, la variété, la fraîcheur et bien sûr, un service des plus attentifs à vos besoins. IGA Régnier de Métabitchouan et Boulevard Sainte-Geneviève Chicoutimi Nord et maintenant le 1324 Boulevard Talbot Chicoutimi. IGA Régnier, une famille de passionnés.
Pour vous aider à mieux consommer et à connaître vos droits de consommateur, voici la chronique de Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur.
En ce 4 novembre, dit le mois des morts, entre autres, où on commémore les gens qui nous ont quittés au cours de la dernière année. Maintenant que l'Halloween est passé, on dit que maintenant, novembre, au roi des morts, sujet qui n'est pas trop festif aujourd'hui, mais il faut quand même en parler. Le domaine funéraire.
Parce que quand on n'en parle pas, c'est là qu'arrive la finalité et qu'on est dépourvu parfois.
Puis on sait qu'il n'y a pas de bon moment pour y penser, mais il faut quand même penser, se préparer.
C'est un bon moment.
Oui, absolument. Arrangement préalable de services funéraires, Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur va nous en parler aujourd'hui. Bienvenue, Charles.
Bonjour à vous.
Pour commencer, les fameux préarrangements funéraires, c'est quoi au juste? Des fois, on entend « j'ai fait mes préarrangements ». La personne qui n'est pas décédée, mais qui a fait ses préarrangements, qu'est-ce qu'on entend par préarrangements funéraires?
Oui, les préarrangements, comme on dit dans le langage courant, ça comprend tous les services liés au corps du défunt et aux funérailles après un décès. En langage juridique, on parle plutôt d'arrangements préalables de services funéraires ou d'achats préalables de sépulture. Ce sont en fait deux choses différentes qui font l'objet de deux contrats distincts d'ailleurs. Donc, les services funéraires, ça peut inclure par exemple l'embaumement, l'exposition, le cercueil, l'urne, la crémation. Et le contrat de sépulture, ben ça va comprendre l'achat d'un espace réservé dans un endroit comme un cimetière, un columbarium ou tout autre lieu qui sert aux mêmes fins.
Moi, je me suis toujours dit, même que je sois mort, ça va être leur problème, moi, être mort, moi. Donc, pourquoi acheter des préarrangements funéraires?
Effectivement, ben, parce que ça vous permet justement de régler à l'avance des détails de services funéraires et d'achat de sépulture et de vous assurer que tout ça va être conforme à votre volonté. Bon, il y a aussi une question de prix. Vous payez le prix actuel pour un service qui sera rendu plus tard, beaucoup plus tard, on l'espère en tout cas. En fait, ben, même si vous décédez 30 ou 40 ans après avoir signé un contrat de ce type-là, aucun coût supplémentaire ne peut être exigé, sauf bien sûr si vous faites modifier le contrat ou vos proches. Tout ça parce que les sommes que vous payez à l'avance, ben, elles sont placées, on présume qu'elles font un rendement. Et donc, avec ce rendement-là, l'entreprise funéraire devrait arriver dans ses frais en ayant finalement combattu l'inflation avec les rendements du payé d'avance.
Donc, si je comprends bien, ce qui est plus payant, ce serait pas de baptiser un enfant, mais d'y acheter des préarrangements funéraires.
En
peut-être qu'un régime enregistré d'épargne études.
Tant qu'au mieux.
Mais il y a aussi vouloir éviter aussi des démarches pénibles, justement, pour les proches. Au moment que ça arrive, c'est là qu'ils sont démunis.
Non, effectivement, c'est vrai. Il y a plusieurs personnes qui vont faire ça en pensant à leurs proches. Elles veulent leur éviter d'avoir à prendre des décisions difficiles et à régler toutes sortes de détails, justement, au moment où ils vivent un deuil, là, puis qu'ils ne sont peut-être pas dans les meilleures conditions pour s'occuper de tout ça.
Il y a quand même quelque chose de surprenant dans le fait de parler de tout ça en termes de contrat. Tu sais, on parle de la mort d'un être vivant, mais il faut s'entendre quand même, des gars vont mourir, on signe une entente, un contrat. Pourtant, c'est censé être émotif tout ça, là. Ça vient nous chercher, on perd un être cher. Là.
Je me souviens même de quelqu'un qui me contait que sa mère avait embarqué dans le cercueil pour l'essayer.
Oh boy!
Ouais. Alors oui, effectivement, la mort, c'est un sujet plutôt émotif et même... si ça fait bizarre un peu de dire ça, c'est important de magasiner ces préarrangements funéraires. C'est des transactions qui impliquent quand même des sommes importantes et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire quelques vérifications. Bon, on s'informe auprès de plusieurs entreprises, on compare les prix, on se renseigne sur leur réputation, on peut visiter leurs installations. Il y a aussi un élément précis à vérifier, la personne avec qui vous faites affaire doit être titulaire d'un permis de directeur de funérailles ou représenter le titulaire de ce permis-là.
Et comment on fait pour savoir si le commerçant a le permis?
Alors, on consulte le répertoire des entreprises de services funéraires sur le site web du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est le M3S, en fait, qui délivre ce permis, justement, parce qu'il y a des enjeux sanitaires dans le fait de manipuler des corps de personnes décédées. Donc, les règles sanitaires à respecter, c'est le M3S qui veille à tout ça. Il faut savoir aussi qu'il y a des règles strictes qui encadrent la sollicitation dans ce secteur d'activité. Ça touche un sujet délicat et on veut justement éviter les abus.
C'est quoi ce genre de règles-là?
Bon, par exemple, la sollicitation téléphonique ou le porte-à-porte sont interdits. Pour qu'un vendeur ait le droit de venir chez vous, il faut que vous y en avez fait la demande express. Il ne peut pas non plus se rendre dans un centre d'accueil. Là, ça serait assez terrible, effectivement, ou une résidence pour personnes âgées pour vendre des préarrangements funéraires. Ni approcher des personnes malades qui ont récemment perdu un proche. Et si vous prenez contact avec un vendeur, mais qu'en fin de compte, vous refusez de signer un contrat avec lui, le vendeur ne pourra pas vous solliciter pendant une période d'un an. Alors, on voit qu'il y a quand même des règles à suivre.
Est-ce qu'il y a d'autres obligations légales qui sont liées au contrat de préarrangement funéraire?
Oui, pour que votre argent soit bien protégé, la loi oblige le vendeur à déposer 90 % des sommes que vous lui avez versées pour les services futurs dans un compte en fidéicommis. Comme ça, si l'entreprise ferme ou fait faillite, votre argent est protégé et peut être récupéré. Et pour l'achat d'une sépulture, le vendeur doit verser la totalité des sommes. Donc, l'institution financière qui conserve les fonds a 30 jours pour vous avertir par écrit de la date et du montant du dépôt. Et ça, c'est important quand on achète un arrangement préalable. Si on ne reçoit pas dans les 30 jours l'avis de l'institution financière, bien là, il y a peut-être un problème. Il faut communiquer avec la maison funéraire sans attendre. On a vu dans le passé des maisons funéraires en difficulté financière qui ne faisaient plus les dépôts juste avant de fermer boutique. Alors ça peut être problématique. Demandez-lui au directeur de funérailles le nom de l'institution financière et exigez une confirmation écrite du dépôt. Et si le montant est payé en plusieurs versements, on vérifie régulièrement auprès de l'institution financière que le vendeur effectue bien les dépôts. L'institution doit vous aviser, elle, seulement au premier versement. Et aussi, on l'a déjà dit, les services funéraires et la sépulture doivent faire l'objet de deux contrats distincts. Le vendeur doit vous donner un double des deux contrats et transmettre une copie à la personne de votre choix dans les 10 jours qui suivent la signature. Ouais. Ça sera un proche, évidemment. C'est important, car ça vous permet de vous assurer que quelqu'un parmi vos proches est au courant que vous avez pris des dispositions comme celle-là.
Si jamais je change d'idée, je décide, ça ne me tente plus de mourir. Est-ce que je peux annuler? Ouais.
Ou déménager. Il y en a qui déménagent, veulent plus changer d'endroit. Alors, ça dépend. Donc, les conditions de modification et d'annulation sont différentes selon les deux types de contrats et selon aussi qu'ils aient été conclus à la maison funéraire même ou ailleurs. Donc, pour un contrat de sépulture, si vous avez signé sur place, vous ne pouvez pas annuler. Et si vous avez signé ailleurs, vous avez 30 jours après la réception de la copie du contrat pour annuler sans pénalité. C'est sûr que ça se négocie aussi, mais en tout cas, en principe, vous ne pourriez pas le faire. Et pour le contrat de service funéraire, si vous avez signé chez le vendeur, vous pouvez annuler en tout temps. Il pourrait, par contre, vous imposer une pénalité d'au plus 10 % du prix des biens et des services qui n'a pas été fourni. Et si la vente a été conclue ailleurs que chez le vendeur, ben là, vous avez 30 jours pour annuler sans frais ni pénalité. Et encore ici, le vendeur pourrait il pourrait y avoir une pénalité, mais là, toutes ces informations-là, on les retrouve facilement sur notre site web, là, si jamais vous changez d'idée, vous avez décidé de ne pas mourir, opc.gouv.qc.ca.
Mettons que j'ai fait mes prises d'arrangement, ça fait 20 ans qu'ils font des intérêts sur moi, ça, puis que tout d'un coup, on se risque, on voit que s'ils ferment les portes, est-ce qu'on risque de perdre tous nos montants?
Non, d'abord, c'est assez rare qu'une entreprise funéraire ferme, mais c'est arrivé. Normalement, les sommes payées à l'avance, on l'a dit, sont placées, sont protégées, puisque le compte en fidéicommis est là pour ça. Et la plupart du temps, lors d'une fermeture, l'OPC va désigner un administrateur provisoire pour aller vérifier tous les comptes de la maison funéraire, s'assurer que les consommateurs ne perdent pas les services payés d'avance. Alors, le plus souvent, on va trouver une autre entreprise funéraire, un concurrent bien souvent, qui est prête à reprendre les contrats de l'entreprise qui vient de fermer ses portes. Et on peut dire en résumé que les consommateurs, généralement, là, sont bien protégés par les règles actuelles.
Est-ce que ce serait pas mieux, si des fois on est jeune, de prendre un montant, de geler là, puis de faire de l'intérêt dessus à la place?
Ça peut être une autre option, effectivement. Oui. Puis,
si on ne fait pas d'intérêt comme ça en fidèle commis, ça coûte tant, t'attends
de faire. Ça pourrait être ça aussi, oui.
Okay. Y a-t-il eu des changements au cours des dernières années sur l'encadrement du domaine funéraire, Charles?
Oui, effectivement, il existe maintenant un registre des contrats d'arrangement préalable de services funéraires et de sépulture. Donc, grâce à cet outil-là, les acheteurs, les entreprises qui font des affaires dans ce domaine-là et les personnes autorisées vont pouvoir retracer tous les contrats d'arrangement préalable qu'une personne aurait pu conclure de son vivant. Et ça, ça peut être particulièrement important s'il y en a qui ont un déclin cognitif. Là, on pense à l'Alzheimer, par exemple, on pourrait oublier qu'on avait un contrat d'arrangement puis en racheter un deuxième. Alors, cette information-là va s'assurer du respect des dernières volontés du défunt, bien sûr, mais aussi éviter, entre autres aux proches, de dépenser inutilement des sommes pour des services qui ont déjà été payés dans un contrat de préarrangement. Alors aujourd'hui, tous les contrats doivent être inscrits et avant de conclure un nouveau contrat de service funéraire, la maison funéraire doit vérifier dans le registre s'il n'y en aurait pas déjà un quelque part pour cette personne-là en question. Et aussi, les maisons funéraires ont maintenant l'obligation de rendre disponible leur liste de prix détaillée pour chacun des produits et services et de détailler ces prix-là dans le contrat. Alors, il y a plus de transparence sur les prix. Ça facilite, comme on dit, le magasinage pour obtenir des meilleurs prix.
Terminant, si on a des questions ou qu'on meurt d'ici demain,
on prévoit mourir bientôt, là. Ouais.
Alors, on peut appeler à l'office à Saguenay. Le numéro, c'est le 418-695-8427. L'adresse de notre site web, encore une fois, opc.gouv.qc.ca.
Charles Tanguay, merci beaucoup.
Bon mois de novembre. Oui. Soyez prudents.
Oui, tout à fait, vous aussi.
Mais finalement, mon idée de mettre ça en intérêt, ça doit probablement être plus payant. Si tu es là pendant 20 ans de temps, les prix vont monter drôlement.
Ben oui, c'est sûr, ça.
Avec l'inflation, peu importe.
Mais s'il est là, le montant que tu as mis, lui, il ne change pas.
Soit parce que tu as déjà un 2% sur ton 10 000, un exemple. Ouais. Ils ne donneront pas grand-chose, mais l'inflation, lui, il risque de monter. Ce qui coûtait 10 000 va peut-être coûter 15 dans 10 ans.
Oui, c'est sûr. Mais comme mentionné, si tu l'as pris là, si tu l'as pris, mettons, il y a 10 ans, ben, tu vas payer le prix il y a 10 ans.
Je pense que c'est mieux ça que le 2% d'intérêt, 3-4 de mettre de
parce
côté.
Parce que ça augmente maintenant. Écoute, j'entendais des gens
c'est sûr que ça doit augmenter.
C'est simplement pour... il y a l'exposition, tu as le choix de faire soit une petite célébration de la parole directement au salon funéraire ou d'aller à l'église et tout ça. Ben, écoute, la location de l'église, la messe et tout ça, ça a des coûts, tout ça, le véhicule.
Moi, j'ai hâte qu'il y en ait une qui offre, tu sais, si on pouvait à la maison se faire incinérer à la maison, puis t'amènes les cendres, tu sais.
Ah!
Pré-incinéré.
Dans
le poêle.
Peut-être moins cher.
mets ça tout de suite, puis c'est réglé. Mais il faut y passer. C'est jamais plaisant d'en parler, évidemment, mais il faut quand même préparer, oui, parce qu'on va tous passer par là un jour. Oui. Hein, donc,
parlez-en à vos proches aussi, si vous prenez des décisions, pour les aviser.
Bien, informez-vous à savoir, coudonc, demandez à vos parents, vos préarrangements, sont-ils faits? Est-ce que vous avez des préarrangements ou comment qu'on arrange ça? Quelles sont vos dernières volontés? T'sais, une certaine époque, moi, je me souviens, quand ma grand-mère est décédée, plusieurs avaient été surpris en disant qu'elle voulait être incinérée. Mm-hmm. Hein? Ah ouais, parce qu'elle voulait être enterrée. Mais non, ils n'avaient pas trop parlé. Puis ils ont vu ça en dernier terme. Donc, c'est... Et ça change toujours. Hein? T'sais, une certaine époque, on voulait être exposé. Bon, veux-tu le cercueil ouvert? Veux-tu le cercueil fermé? Veux-tu être exposé? Avant, c'était 2-3 jours. Maintenant, ça peut être seulement une demi-journée. Alors
aujourd'hui, tu peux être planté avec un sapin, sacré dans l'espace, t'as tous les choix au monde.
Il y a plusieurs possibilités, en plus de l'aide médicale à mourir et tout ça, tu sais, ça vient tout changer ça. Alors, important de s'informer. Chronique de l'Office de protection du consommateur.
Surtout que quand ça arrive, on est démunis. On va dire oui à tout.
Puis, c'est ça. Parce que tu n'as pas vraiment la tête. Ils vont vous offrir des choses.
Tu veux pas manquer de respect. Tu veux que ça soit vite. Tu veux pas niaiser là longtemps. Puis, garde-là un bout quand tu vas faire un tour.
Je pense que les compagnies de services funéraires, évidemment, comprennent la situation. On est bien entouré, mais veut pas, ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile.
Mais c'est tout que ça doit être payé. Être un ténatologue, là. Ah! Les gens qui opèrent ça, en tout cas, là, les centres funéraires.
C'est sûr que ça va être quand même intéressant.
Mais j'en ai connu, moi, puis faisant une affaire, c'est comme la radio. 24 heures sur 24. Ben, quand mort, il arrive, tu y vas.
Ah, ben, c'est ça.
Tu vas le mettre dans le show.
C'est vrai. C'est
ensuite,
vrai.
Tu payes du monde pour ça. Le monsieur Noé Caron, Gravel et tout ça, eux autres, ils ne touchent pas grand-chose, probablement.
Ouais, mais au début,
ils ont travaillé.
Ils ont travaillé fort.
On commence en bas de l'échelle.
Mais aujourd'hui,
ça a changé.
C'est une belle machine rodée, ça.
Absolument. Chronique de l'Office de protection du consommateur. Donc, à tous les lundis avec Charles Tanguy, vous pourrez la réentendre dans le retour du 92.5 aux alentours de 17h45. On s'en va à la pause des détails météo et au retour, Max Bradette va nous parler de sport.
Entendre mieux, ça change tout. Écoutez bien ce son. Vous ne l'avez pas entendu? Communiquez sans plus attendre avec le groupe Forget Audioprothésiste pour un dépistage auditif sans frais.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de denturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mon Denturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
Amateurs de cinéma en tout genre, ici à l'Implant. Je vous invite à écouter le retour du 92.5 le jeudi à 17h35 pour la chronique cinéma. Au programme, la critique du ou des films de la semaine, les films à venir dans les cinémas et cinéparcs de la région et les heures des projections spéciales de films. C'est un rendez-vous pour la chronique cinéma dans le retour du 92.5 le jeudi à 17h35 sur ma radio d'ici.
La météo, une présentation de Kia Harold Auto, 693-8050.
Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
92.5. Météo!
Ennuagement ce matin, maximum de plus 2, refroidissement éolien jusqu'à moins 14 à certains endroits. Ce soir, pluie intermittente, risque de pluie verglaçante en terrain élevé, température de plus 2. Demain, pluie, hauteur de 10 à 15 mm, maximum de 11. Pluie dans la nuit de mercredi, maximum de 11. Nuages jeudi, maximum de plus 3. On a 0 au Saguenay, moins 2 avec les vents. 0 au lac, il n'y a plus de vent.
92.5 Ma radio d'ici. Le sport, presque une religion, plus qu'une passion. Place au sport avec Max Bradette.
Max Bradette, bon lundi.
Bon lundi, Dominique.
Oh, après encore une fois, une grosse fin de semaine au niveau du sport. C'était, je crois, le dernier programme du côté de Trois-Rivières. J'ai vu des images, là, t'as posé avec des gens. Il y avait l'air d'avoir énormément de personnes.
Oui, écoute, on a eu une belle foule pour finir la saison. Les gens se sont présentés en grand nombre avec un peu de nostalgie. Tu sais, Une chose, c'est qu'on ne voit plus dans le sport, mais que j'adore pour... Dans le baseball, j'adore ça. T'as le début, puis t'as la fin de saison. Mais le début, tu sais, quand il y a la première journée, c'est un petit peu comme si tu ressusciterais. C'était pareil à Jonquière, là, quand on commençait la saison. J'ai des souvenirs, écoute, j'ai vraiment des beaux souvenirs. On entraînait des chevaux, puis là, t'avais des gens qui venaient, des amateurs de course, qui venaient le samedi matin pour chronométrer les chevaux qui s'entraînaient pour être peut-être que... Ah oui, la semaine d'après, ben là, quand la saison débutait, ben là, pour essayer d'avoir un tuyau, comme on appelle ça, avoir des informations, tu avais cet attachement-là pour savoir, écoute, si je peux mettre la main sur une perle rare, tu comprends? Et puis, c'est un petit peu la même chose qui se produit quand on réouvre la saison à Trois-Rivières. Puis, c'est la même chose quand on la ferme. Parce qu'à toutes les fois qu'on ferme la saison, ben les gens pensent, parce qu'écoute, c'est un mythe. On dit, ah, il va en avoir une grosse, il va avoir un gros coup aujourd'hui. Les gens disent, il va avoir une passe. C'est des mythes, là, tu comprends ce que je veux dire. C'est le dernier programme, le monde, ils veulent gagner, mais il y a toujours à peu près un gros billet dans l'ordre du dernier programme, puis les gens, ben, ils espèrent de le gagner. Mais ce qu'on a vu cette année, puis qui est dans le sport, généralement, les gens cherchent de plus en plus d'endroits pour aller se divertir à prix abordable ou à prix nul. Et l'hippodrome offre ces choses-là. Tu sais, tu peux t'en aller à l'hippodrome, tu t'assis dans les estrades, tu regardes les chevaux, tu regardes le spectacle, ça te coûte pas un sou, comme dit La Fontaine, et c'est gratuit. Ça fait que puis on voit la même chose, tu regardes le hockey, les gens me parlaient hier justement du hockey senior de la Mauricie, qui ont de bonnes foules. Les gens s'attachent un petit peu, on dirait qu'ils reviennent, s'attachent à leur coin de pays. Les gens ont besoin de sortir, là, ont besoin de se divertir. Puis c'est pas tout le monde là, qui peut dire « je me paye une journée au Canadien ». D'abord, ce qui me renverse, c'est quand, après les matchs des Canadiens, un exemple, les gens appellent à la ligne ouverte, puis ils disent, ben, j'ai arrivé, il y avait 10 minutes de jouer dans la première période. Ouais, ouais, mais tu pars d'où? Ah, oh, je partais de la Rive-Sud. Ouais, mais t'as bien parti tard. J'ai parti à 5h15.
Tabarnouche.
Fait qu'écoute, c'est aberrant, là. Tu payes 200, 300, 400$ pour un billet, puis là, tu t'en vas... Si tu arrives 10 minutes, il y a 10 minutes de jouer dans la période. Fait que de plus en plus, c'est des divertissements qui sont extrêmement coûteux. Mais quand tu as des divertissements, tu sais, on m'a donné un exemple comme chez vous, les voyageurs. Regarde le succès des voyageurs, regarde le succès avec des marquis, des Saguenayens. Tu vois que les gens reviennent à leur source. C'était un peu pareil comme quand il n'y avait pas de Ligue junior majeure du Québec. Toi, tu n'as pas connu ça. La Ligue junior B, je te l'ai dit, j'ai déjà vendu des prix énormes pour des finales de la Ligue junior B entre les Saguenayens de Chicoutimi et le National de la Baie. J'ai vendu des billets, 50$ du billet pour du junior B.
Tabarnouche.
Écoute, là, 50$, puis le monde, j'avais été...
Tu les as vendus, là?
Ah non, je les ai vendus. J'en avais acheté 10, écoute, ils coûtaient, c'était 4,5 piastres ou 5 piastres du billet, là. Mmh. Puis 50 piastres, j'ai arrivé, j'en avais acheté une dizaine de billets, puis écoute, j'avais, j'avais cuisiné ma mère pour qu'elle me donne les fonds pour aller acheter des billets. Puis là, je disais, ça va être une bonne affaire. J'étais jeune, je devais avoir quoi, 7-8 ans, là. Peut-être 7-8 ans, pas plus que ça. Et puis là, tu t'en iras pas, tu sais comment ce qu'il était, tu t'en iras tout de même pas, tout seul dehors, aller vendre des billets, puis écoute, oui, il n'y a pas de danger. Puis je me souviens que il y avait une station-service aux côtés du Centre Georges Vézina qui appartenait à un gars, je me souviens encore du nom, qui s'appelait Raoul, et il y avait une station-service là, puis là, ben mon père avait été se stationner là pendant que j'allais parce qu'il était hors de question que je m'en aille tout seul en avant du Saint-Georges-Vézina pour vendre des billets. Mais lui, il fallait juste attendre là, tu comprends?
Ouais.
Mais j'avais vendu mes billets, 50 piastres du billet.
Calais.
Ça courait après moi pour les acheter, là. C'était du Junior B. Il y a les plus vieux vont s'en souvenir. Ben, il y a un livre sur
l'histoire du Junior qui était fait par Michel Simard qui est... savoureux, c'est excellent.
T'sais, il va se souvenir de ça. Il y avait un gars qui s'appelait Flipper. Il l'appelait Flipper. C'était un Tremblay qui jouait pour l'Abbé, là. Un bon joueur de hockey. Puis à ce moment-là, c'était lui la vedette. Puis je me souviens qu'il avait éliminé Saguenay en 7 parties, la 7e partie qui était justement jouée à Chicoutimi. Fait que tu sais, ces choses-là, tu avais un sentiment d'appartenance, là. Après ça, est arrivé le junior majeur. Puis là, ben, on connaît l'histoire. Mais les gens ont besoin de sentir ces rivalités-là. Puis on dirait que ça tente à revenir, Dominique. Là.
Absolument.
C'est pour ça que j'ai confiance. J'ai confiance à la ligne nord-américaine. Puis, tu sais, même la ligne senior de la Mauricie, je crois que la ligne nord-américaine devrait faire un genre de pont, un rapprochement que les étoiles de la ligne de la Mauricie rencontrent des équipes de la ligne nord-américaine pendant la saison. Tu sais, des choses du genre, des affaires de même. Je pense que c'est des attractions qui attiraient, parce que les gens ont besoin de ça. C'est ce qui se produit. L'hippodrome, en tant que tel, a connu une bonne saison locale. Je te dirais qu'il y a des bémols avec les paris de l'extérieur. Il y a des points d'interrogation avec les salons de paris qui sont en baisse. Par contre, le pari via HPI est en hausse. Mais à l'hippodrome, la fréquentation est plus que bonne. Et on a eu l'occasion de le voir hier. C'était bien plein. Les gens avaient du plaisir. Et l'approche n'est pas la même. Moi, j'ai quand même grandi dans ce milieu-là, puis l'approche n'est pas la même. Les gens viennent, s'amusent, viennent se renseigner comment ça fonctionne, puis tu n'entends plus, puis c'est bon. Tu n'as plus la fameuse, je te dirais, qui planait sur le dos. Tu sais, tout le temps penser des malversations. Non, l'approche au niveau du sport a changé et l'approche au niveau de ceux qui pratiquent le sport, surtout à Trois-Rivières. Écoute, c'est ce qu'on appelle des amoureux des chevaux. Tu vois, Paradessa, c'est de toute beauté. Ils sont tous bien attelés, sont propres. Je pense à la famille Fortin qui a signé un retour du Saguenay après une 30aine d'années. Ils arrivent avec le gilet à leur couleur. Les chevaux sont habillés à leur couleur également. Ils sont fiers. Et ça, mon ami, ça ne peut que rapporter à la longue.
Mais oui.
Et je crois que de plus en plus, ce qui se produit, il y a une fracture qui se fait entre la région de Montréal et le reste des régions, Dominique. Et ça, là, s'il n'y a pas quelque chose qui prend ça, autant culturellement que sportivement, s'il n'y a pas des gens qui vont... la lumière va s'allumer au niveau des différents dirigeants. Puis quand je parle des différents dirigeants, je parle autant municipal que provincial, là. Parce que les municipalités ont un devoir à faire aussi dans ces propriétés sportives-là. Parce que une équipe sportive, quelle qu'elle soit, une attraction sportive, un événement sportif, on parle du tournoi de tennis. Moi, je pense que vous avez encore un gros tournoi de curling au Saguenay, si je ne m'abuse.
Oui, je pense que oui, absolument.
C'est fait que ces événements-là se doivent d'avoir une visibilité. Il y a déjà là que je trouve ça terrible qu'on ne couvre à peu près plus la traversée du lac Saint-Jean, qui, dans mon optique à moi, et ça prend quasi quasi des surhommes pour aller traverser le lac Saint-Jean.
C'est extraordinaire, là.
Pense-y, là, quand tu t'envoies dans l'eau à 5h30 le matin, là, puis il y a des journées qu'on s'en souvient, moi, quand j'étais jeune, je sais qu'ils l'ont retardé, ils l'ont mis plus tard un peu, mais auparavant, là, ils ont déjà embarqué dans l'eau à 60, 58, 59 degrés, 60 degrés. Puis ça mérite d'être couvert au moins en frais d'événement. C'est une attraction. Je sais que dans la région, dans le coin de Roberval, puis tout ça, on a gardé des traditions. Mais la traversée du lac Saint-Jean mérite d'avoir des lettres de noblesse à la grandeur de la province. Et tant et aussi longtemps que la presse sportive, tant que les médias d'information vont dormir sur leur laurier puis nous parler, tu sais, c'est un petit peu pareil, là, t'écoutes ça, là, c'est une litanie terrible, qu'on va donner la parole toujours aux mêmes personnes. Quand les expos sont partis, on parlait du retour des expos, ben c'est Claude Brochu qu'on invitait. Quand les Nordiques sont partis, on parlait de ramener les Nordiques, ouais. C'était toujours Marcel Aubut qu'on invitait. C'est, écoute, t'invites le bourreau. T'invites le bourreau à venir t'expliquer comment il t'a coupé la tête. Je comprends pas. Un peu comme dans les médias, on invite Gaétan Barrette, qui était l'ancien ministre de la Santé, à venir nous expliquer ce qui ne marche pas dans le système de santé. Excuse l'expression, mais Chris, il était là. Il était là, il avait la possibilité de le faire. Et là, on s'aperçoit avec ce qui se passe, le scandale à la DPJ, que quand lui a pris le pouvoir, j'ouvre et je ferme une parenthèse, que c'est lui qui a centralisé ça, puis que la DPJ, je m'excuse l'expression, moi, le dire en saignant, il s'encorissait. Ben là, on s'aperçoit ce que ça a donné. Là, le cancer est généralisé. Mais tu sais, c'est ces bourreaux-là. On fait la même chose avec le hockey. C'est les mêmes commentateurs qui nous donnent la même salade, qui protègent le Canadien. Rien qu'à regarder les scandales sexuels, tout ce qui arrive. Ce que ça fait, c'est que là, tu vois de plus en plus la ligne canadienne, les universités américaines vont pouvoir venir piger d'un joueur de la ligne junior majeure du Québec, oui. Et des autres équipes canadiennes au niveau junior, à la grandeur du Canada. Ça va changer royalement, parce que là, tu vas avoir la possibilité d'envoyer des jeunes à l'université, tu vas avoir des possibilités, ça va complètement changer d'image. Mais ça, c'est le résultat de toutes les choses qu'on n'a pas arrangées, que les médias ont protégées, puis qui protègent encore. Puis ça, ben, on parle au hockey parce que le monde parle du hockey, mais c'est dans tous les sports, Dominique. C'est quand tu couvres pas des événements sportifs, quand tu couvres pas des vedettes québécoises, parce qu'on parle de Québec, ouais. Qui font campagne à l'extérieur et puis qui réussissent bien, qui sont des vedettes. Écoute, moi, ce qui m'avait frappé, avant que les gens capotent ces combats ultimes, il y avait Georges Saint-Pierre, qui n'était nullement connu ici, là. Il avait annoncé qu'il faisait un gala avec Georges Saint-Pierre au centre Bell. Dans ce temps-là, c'était le centre Bell. Et puis le monde sont là, les journalistes. Il n'y aura pas de monde, personne ne connaît ça. Le dirigeant de la MMA, là, des combats ultimes. Ah, ouais. Oh, il dit, vous n'avez pas besoin d'être inquiète, tous les billets sont déjà vendus.
Ah ben.
Là, il avait pris connaissance. Il y avait quelque chose qui s'appelait Internet. Tu comprends dans ce temps? C'était Internet. Puis que la publicité se faisait par là, par les réseaux sociaux, par les plateformes YouTube. Tu pouvais voir, les jeunes connaissaient ça. Et là, 7, 8, 10 ans plus tard, on s'est aperçu qu'il y avait une crise au niveau des médias parce que le monde passait puis prenait leur information sur d'autres plateformes. Ben, c'est la même chose qui se produit. Là, on voit le retour du balancier. Puis moi, ben, encore une fois, je remercie les gens du Saguenay qui sont venus nous encourager. Tu peux pas t'imaginer le monde de gens du Saguenay qui viennent me voir. Puis qui me rappellent, il y en a beaucoup qui me rappellent des souvenirs de Jonquière. Puis mon père était là. Et tu te souviens pas de moi? Puis il y en a beaucoup, là. Écoute, on a tous vieilli, là. Tu te souviens pas de moi, Max?
T'essayes
de deviner. T'essayes de deviner c'est qui.
Tu parlais tantôt du gars Flipper. Éric, tu l'as le nom, hein?
Oui, Germain Tremblay.
Germain Tremblay.
Je savais que c'était un Tremblay, là.
Puis en plus, on nous dit aussi que le responsable de tout ça, finalement, ce serait vraiment Jacques Parizeau du départ des Nordiques. Son gouvernement, il n'a rien fait pour tenir le club. C'est ça qu'on me dit.
C'est pas ça, je vais dire de quoi j'ai eu l'occasion de discuter. C'est Jacques Parizeau, c'est le responsable du départ des Nordiques qui s'appelle Marcel Aubut. Marcel Aubut voulait avoir le beurre, l'argent du beurre et les foufounes de la beurrière. Jacques Parizeau avait offert de racheter Marcel Aubut.
Ah.
Jacques Parizeau ne voulait pas être associé avec Marcel Aubut. Marcel Aubut, chaque hot dog qui se vendait au Colisée de Québec, chaque transaction qui se faisait des fournisseurs, il y avait une cote qui s'en allait au bureau de Marcel Aubut. Okay. Jacques Parizeau avait offert au Québec King, parce que Marcel Aubut était propriétaire des Nordiques, avait une petite part des Nordiques, avec le Québec King, les provicaux de ce monde. Je peux pas tout te dire ceux qui étaient dans ça, je pourrais te checker et te le dirais. Je veux pas nommer de noms qui n'étaient pas là puis de noms qui étaient là, mais on appelait ça le Québec King. Le Québec... Le gouvernement du Québec voulait acheter les parts à Marcel Aubut. Par la suite, il aurait été propriétaire, actionnaire avec le Québec Inc. Et par la suite, trouver des acheteurs et le gouvernement voulait se séparer de Home. Marcel Aubu voulait un casino. Marcel Aubu voulait toutes ces choses-là. Puis après, là, je m'excuse, mais encore là, là c'est quand on parle de nouvelles, là, tu vois qui qu'on défend, là? Un gars qui a bâti Hydro-Québec, puis c'est pas pour prendre pour Jacques Parizeau. Un gars qui nous a donné la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a permis de financer pour garder le Canadien. Un gars qui avait Investissement Québec. Un gars qui a bâti le Québec. Puis un autre que sa carrière a terminé parce qu'il se mettait tout nu devant des secrétaires puis il essayait de les sauter. Fait quand moi, puis toi, tu regardes comment est-ce qu'on arrange la réalité. La réalité, je viens te le dire. Puis il y a une autre chose. Où est-ce que Marcel Aubu, pas Marcel Aubu, mais Jacques Parizeau a mal fait? Parce que les gens de Québec, parce que quand tu parles aux gens de Québec, j'ai resté 5 ans à Québec, puis Dominique, tu as eu l'occasion d'y aller. Mm-hmm. Quand tu leur parles, c'est la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf.
Ben,
Nous autres à Québec, ils font toujours ça mieux que les autres. Mais nous autres à Québec, une chose qu'il faut se dire, c'est que quand ils ont eu les Nordiques, on a réussi à leur faire croire qu'ils étaient trop pauvres, qui était trop petit pour avoir une équipe de hockey, et ils l'ont cru. Puis quand encore là, on croit encore Marcel Aubu, qui était accusé, qui était trouvé coupable, mais on croit encore Marcel Aubu. Mais Parizeau, la gaffe qu'il a faite, c'est de ne pas avoir été comme un bon libéral. Moi, ce que j'admire, là, je les aime pas, mais je les admire pour une chose. Puis laisse-moi te dire juste une chose
pour
avant
terminer,
qu'on se
oui.
termine. Si Marcel Aubu leur aurait donné un Colisée, puis il aurait acheté une Nordique, il aurait gagné le référendum au lieu de le perdre en 1995. C'est la chose qu'il n'y a pas eu. L'instinct du tueur. Mais si t'aurais mis Max Bradet là, fais-toi-en pas que je lui aurais fait plaisir. Puis il aurait dit, nous autres à Québec, on va en avoir une arena.
Max for President. Hey Max, on se laisse là-dessus. On se souhaite une bonne journée et on se reparle demain.
Mais ça, c'est du passé.
Ouais, c'est pas du passé. Ah oui, alors, on est très nostalgique ici au Québec. Parmi les propriétaires, il y avait la brasserie O'Keeffe qui était là aussi.
Make je pense. Québec great again.
Ouais, ça, c'est une autre histoire. Ça, André,
oui.
Qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui?
Ben, on parlait d'un feu ce matin du côté d'Allemagne.
Oui, suspect, hein?
Puis là, ben, c'est ça, il y a des éléments d'information. TVA Nouvelles ont ajouté à la nouvelle que ce serait en lien avec la guerre des gangs de motards.
Bon, une autre affaire.
Ça fait deux fois que le lieu est incendié. Ah. Un local des Devil Ghost, okay. Une filiale des motards criminalisés.
Donc, les pompiers sont sur place, c'est sur la rue Lévis, également.
Oui, c'est ça. Fait que pour le reste, ben, c'est ça, il y a une enquête qui va être faite par un enquêteur de la Sûreté du Québec. Alors, fait qu'on va surveiller ça, mais il n'y a pas grand-chose médiatiquement à surveiller aujourd'hui, en ce lundi.
C'est plus demain que ça risque de passer.
Oh que oui.
OK, donc André s'en vient pour les informations. Annick Bilodeau par la suite pour Simplement Bilodeau. Éric, on sera dans le retour à compter de 16h30.
Oui.
On vous souhaite une très belle journée, un bon lundi. On se quitte avec la passe du jour.
Un enquêteur a demandé à Hannibal Lecter s'il avait déjà violé une de ses victimes. Sa réponse, non, je ne saute jamais un repas.
Ah. C'est réfléchi, ça.
Les nouvelles au 92.5.
Bon, lundi, tout le monde, 4 novembre, 8h59, les agents du service de police de Saguenay ont eu à intervenir hier soir vers 20h15 à la maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Un homme y causait alors des problèmes, des troubles, comme on l'a dit sur la boîte vocale, en plus de proférer des menaces de mort à un occupant des lieux. Connu des services policiers, l'homme